Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 juin 2026. Vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Aujourd'hui, l'homme de Dieu nous conduit dans la 29e partie du thème « Ce monde que nous devons haïr ». Nous avons 6 textes de référence en ouverture de cette méditation. Nous commençons par Genèse 1, verset 1. Il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Puis Exode 3, verset 1 à 6, nous lisons « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision ». Et pourquoi le buisson ne se consume point ? L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Et il répondit « Me voici !» Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Exode 3, verset 14 à 15, il est écrit « Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Exode 4, verset 5. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Psaume 14, verset 1 à 3, il est écrit « Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Jean 1, verset 1 à 3, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Aujourd'hui, nous mettons le curseur sur l'argument bibliologique. Cet argument, ajouté aux arguments cosmologiques et christologiques, rappelle les modes principaux par lesquels la divinité s'est révélée. Ces modes sont au nombre de 4. Dans Romains 1, versets 19 à 20, c'est la création. Il est écrit « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Un autre mode, c'est la parole de Dieu, les saintes écritures. Dans Genèse 1, verset 1, il est écrit, selon le premier verset de la Bible, au commencement, Dieu. Le troisième mode est le Fils de Dieu, Christ. Dans Jean 8, verset 19, il est écrit « Ils lui dirent donc, où est ton Père ?» Jésus répondit « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et également dans 1 Jean 5, verset 20, il est écrit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Et également le Saint-Esprit. Nous lisons dans Jean 16, versets 13 à 15, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » En recourant à l'argument bibliologique, notre intention est de montrer en quoi la Bible en soi est une preuve de l'évidence de l'existence de Dieu. La Bible est le seul livre sur la terre dont Dieu revendique objectivement la paternité. Elle est le seul livre qui, tout en étant écrit par les hommes, a été entièrement inspiré par Dieu. C'est à juste titre qu'elle est appelée la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, il est écrit « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. » Elle est également la parole de l'Éternel. Dans Jérémie 1, versets 2 et 11, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie ?» Je répondis « Je vois une branche d'amandier. » Dans Colossiens 3, verset 16, il est écrit « C'est la parole de Christ. Il est écrit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Elle est également la parole de vie. Dans Philippiens 2, 15 à 16, nous lisons « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » Elle est également la parole de vérité dans Éphésiens 1, verset 13. Il est écrit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Elle est également la parole de foi. Dans Romains 10, verset 8, il est écrit « Que dit-elle donc ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. » Dans Jacques 1, versets 21 à 23, elle est la parole. Il est écrit « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Elle est également l'Écriture. Dans Marc 12, verset 10, il est écrit « N'avez-vous pas lu cette parole dans l'Écriture ? La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » Elle est également les Écritures. Dans Matthieu 21, 42, il est écrit « Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ? C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. » Dans Romains 1, verset 2, elle est les saintes Écritures. Il est écrit « qui avait été promis avant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures ». Elle est enfin dans Romains 3, verset 2, les oracles de Dieu. Il est écrit, il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Toutes ces appellations montrent à suffisance la particularité de la Bible. De fait, bien qu'une quarantaine de personnes aient contribué à sa rédaction, aucune de ces personnes ne peut revendiquer la paternité d'aucun livre, car tous les 66 livres qui composent la Bible sont inspirés de Dieu. Dans 2 Timothée 3, verset 16, nous lisons « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dieu est donc l'auteur de la Bible, ce qui fait d'elle un livre à part. Elle surpasse en sagesse, en pertinence, en beauté, en profondeur, en richesse, en puissance, en autorité, en prédiction et en crédibilité, tous les autres écrits. La Bible, à l'image de son véritable auteur, est un livre qui est au-dessus de toute comparaison. La Bible prouve l'existence de Dieu de trois manières. Par ses affirmations le concernant, les sept premiers mots qui introduisent tous les 66 livres en sont la parfaite illustration. Dans chacune des pages de la Bible, Dieu nous est révélé comme le Dieu trinitaire, le Dieu qui a créé tout ce qui existe, le Dieu vivant et vrai, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la source ultime de vie, le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. La Bible est un argument en faveur de l'évidence de l'existence de Dieu par le fait de la pertinence, de la précision et de l'exactitude de ses prédictions. À titre d'exemple, nous avons dans le livre de l'Apocalypse une prophétie qui dit qu'un temps viendra où tous ceux qui voudront acheter ou vendre devront porter la marque de la bête. Une allusion à une monnaie bien différente des monnaies qui sont et servent de moyens d'échange. Nous lisons dans Apocalypse 13, versets 16 à 18, il est écrit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. » Apocalypse 13, 16 à 18. Pour votre gouverne, sachez que depuis l'aube de la civilisation humaine jusqu'à ce jour, l'humanité a connu cinq types de monnaie ou de moyens d'échange. Le troc, la monnaie métallique, la monnaie fiduciaire, le chèque, la carte électronique, carte à puce, carte à piste, fonction intégrée à un téléphone portable. Mais la Bible a prédit une sixième monnaie. Cette prédiction a été faite il y a plus de 19 siècles. C'est une monnaie qui ne sera semblable à aucune des monnaies suscitées, puisqu'elle sera incorporée en chaque individu. Partout dans les pays dits développés, cette monnaie est en phase d'expérimentation. Des prédictions aussi historiques, qui sont en voie d'accomplissement, ne sont-elles pas des preuves que la Bible est un livre inspiré? Si elle est inspirée, c'est que son auteur n'est pas humain, c'est Dieu. La troisième manière par laquelle la Bible est une preuve de l'existence de Dieu, c'est son indestructibilité. Tout a été fait pour que la Bible disparaisse dans la société des hommes, mais rien n'y fit. Rien d'étonnant. Dieu, l'auteur de la Bible, n'a-t-il pas dit que sa parole ne passera jamais? Dans Ésaïe 46, 10 et Luc 21, 33, nous lisons. Ésaïe 46, 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. Luc 21, 33. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Incontestablement, la Bible atteste que Dieu existe. À retenir, la Bible est un des modes ou moyens principaux par lesquels Dieu se révèle. La Bible est en soi un argument pertinent en faveur de l'existence de Dieu. La Bible prouve de trois manières, par ses affirmations, par ses prédictions et par son indestructibilité, son intemporalité. Puisse le Seigneur nous faire faire des exploits avec Dieu selon le psaume 60, verset 14. Excellente et victorieuse journée en Christ. Votre serviteur, le docteur Jean-Claude Coffi, ce jeudi 4 juin 2026.